France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Voici pour cette semaine une série sur Nietzsche et l'Italie, où le philosophe allemand a très souvent voyagé, ce qui a marqué sa vie et son œuvre. Nous allons l'accompagner de ville en ville. Ce matin, Sorrente, première rencontre avec la lumière italienne. En Italie, Nietzsche est d'abord allé pour se soigner. Les maladies de Nietzsche ne nous sont pas parfaitement claires aujourd'hui, d'autant qu'il en avait peut-être plusieurs en même temps. Une syphilis sans doute en évolution qui serait responsable de sa paralysie des 10 dernières années de sa vie. Des migraines atroces, ça c'est sûr, jusqu'au vomissement et à l'évanouissement. Peut-être aussi une tumeur cérébrale, c'est de cela qu'est mort son père dont le corps a été autopsié. En tout cas, Nietzsche dit ne pas supporter l'hiver et le froid à Bâle, où il est devenu professeur de philologie classique en 1869, à un très jeune âge, 25 ans. Nietzsche prend un congé pendant l'hiver 1876-77 et il part au sud de l'Italie, à Sorrente, dans le golfe de Naples, où il arrive le 25 octobre 1876. C'est une amie, la baronne Malvida von Meisenbuch, qui l'a invité dans sa villa, la villa Rubinacci. La chambre de Nietzsche donne sur le Vésuve. Lumière, mer et volcans vont bientôt devenir pour lui un paysage idéal et inspirant, sans parler de la douce chaleur qui lui fait du bien. La bienveillante hôte des lieux avait aussi convié son ami Paul Rey et un de ses étudiants à Bâle, Albert Brenner. Tous travaillent, la baronne comprise, qui prépare un roman. Nietzsche gardera de ce premier voyage italien la sensation qu'il n'a pas assez de force pour le Nord, où règnent les âmes balourdes et artificielles, comme il l'écrira dans un fragment de 1881. Justement, dans ce fragment, il rappellera cette première fois, je cite encore, où il voyait monter le soir avec son rouge et son gris velouté dans le ciel de Naples. Le sud pour Nietzsche sera pour toujours l'Italie, car la Corse et la Grèce, à propos desquelles il a beaucoup fantasmé, sont restées des fantasmes. L'Italie, elle, il s'y abreuve sans cesse pour féconder sa vie et son œuvre, et à l'évidence pour se débarrasser de quelque chose de l'Allemagne.
Parvenu, ne serait-ce que dans une certaine mesure, à la liberté de la raison, ne peut rien se sentir d'autre sur terre que voyageur, pour un voyage toutefois qui ne tend pas vers un but dernier, car il n'y en a pas. Mais enfin, il regardera les yeux ouverts à tout ce qui se passe en vérité dans le monde. Aussi ne devra-t-il pas attacher trop fortement son cœur à rien de particulier. Il faut qu'il y ait aussi en lui une part vagabonde, dont le plaisir soit dans le changement et le passage. Sans doute, cet homme connaîtra les nuits mauvaises ou pris de lassitude, il trouvera fermée la porte de la ville qui devait lui offrir le repos. Peut-être qu'en outre, comme en Orient, le désert s'étendra jusqu'à cette porte, que les bêtes de proie y feront entendre leur hurlement tantôt lointain, tantôt rapproché, qu'un vent violent se lèvera, que des brigands lui déroberont ses bêtes de somme. Alors, sans doute, la nuit terrifiante sera pour lui un autre désert tombant sur le désert, et il se sentira le cœur là de tous les voyages.
Vous entendez le groupe de musique Schizo qui en 1972 proposait cette chanson « Le Voyageur », dont les paroles, lues ici par le philosophe Gilles Deleuze, sont extraites du livre de Nietzsche « Humain, trop humain ». Voyager, se détacher, s'arracher, c'est un des enjeux majeurs de Nietzsche lors de ses séjours en Italie. Nous en parlons ce matin. Bonjour Yvan Butel.
Bonjour.
Vous êtes auteur, scénariste et réalisateur. Vous avez fait deux films sur Nietzsche. Les 9 folies de Nietzsche à Turin en 2002 et en 2025, Le philosophe qui rêvait d'une île. Bonjour Tiffane Morille.
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Vous êtes professeur de philosophie en classe préparatoire littéraire, spécialiste de l'œuvre de Nietzsche. Votre thèse, soutenue il y a peu d'années, s'intitulait « Logique du rêve, Nietzsche et la morphogénèse des apparences ». Et bonjour Philippe Granarolo.
Bonjour à vous.
Vous avez été professeur de philosophie au lycée et en classe préparatoire.
Il y a quelques siècles.
Non, si vous saviez comme vous avez bonne mine ici.
Merci.
On dirait pas. Vos postes, en effet, étaient tantôt à Ajaccio, tantôt à Bastia, tantôt à Toulon. Bref, la lumière méditerranéenne, vous la connaissez bien.
Elle ne m'a pas quitté.
Je vois. Et vous êtes un très bon connaisseur de Nietzsche.
Merci.
Et de cet enjeu pour lui aussi. Votre dernier texte est une fiction parue chez L'Harmattan en 2023. C'est le journal retrouvé de Friedrich Nietzsche. Alors je précise que l'idée de cette série sur Nietzsche et l'Italie nous a été soufflée par Stéphane Flocari, très bon connaisseur de Nietzsche, qui sera présent évidemment dans cette série, dans les épisodes 2 et 3. Et puis cette idée, Tiphaine Maury, vous a tout de suite plu quand on vous a téléphoné pour participer à cette série. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que le rapport de Nietzsche à l'Italie est, en effet, pour vous, décisif pour comprendre sa pensée.
Alors oui, je vous remercie d'ailleurs de cette invitation qui m'a effectivement fait extrêmement plaisir, mais qui donne aussi l'occasion de mieux comprendre quelle est la logique de l'itinérance et des voyages qui ont composé une grande partie de la période productive de Nietzsche, qui va effectivement démissionner de son poste à Bâle à l'issue de cette année qu'il passe en Italie, et essayer de comprendre l'articulation que l'on peut faire entre l'aspect biographique des choses, c'est-à-dire les villes qu'il visite, le choix de ces villes, la logique des déplacements, pourquoi aller dans tel endroit après tel autre, qu'est-ce qu'il y cherche exactement. Donc essayer de comprendre le rapport que l'on peut faire entre cette vie d'itinérance et ses écrits. Parce qu'il me semble qu'il est primordial de ne surtout pas dissocier ces deux aspects et de comprendre que ce que l'on retrouve de rapporter dans la correspondance ou dans les carnets préparatoires à ses œuvres, les descriptions des paysages, le rapport à la maladie, à la santé, à quel moment est-ce qu'il dit qu'il se sent mieux et dans quelles circonstances il constate une aggravation de ses maux, eh bien, ces circonstances-là sont directement pour lui en relation avec ce qu'il écrit, avec les pensées qui émergent au contact de certaines personnes et de certains lieux.
C'est très riche tout ce que vous venez de dire, c'est vraiment tout le programme de ce matin pour essayer de comprendre ce voyage en Italie qui le fera quitter son poste à Bâle, ce premier voyage à Sorrente. Je me permets de dire qu'en août 76, donc juste avant de partir, il a été au festival de Bayreuth. Il a été déçu, sa relation avec Wagner ne va pas bien. Nous allons parler de tout cela, mais d'abord, plus largement, l'Italie. J'aimerais savoir, Yvan Butel, pourquoi vous vous intéressez à Nietzsche en tant que réalisateur et pourquoi ce thème hante à ce point, en tout cas le sud, la Méditerranée, vos deux films sur Nietzsche.
Nietzsche, c'est un personnage de film extraordinaire pour moi. Il est romanesque peut-être. Il pourrait être un personnage de littérature et puis il est un personnage cinématographique. Si Hollywood s'emparait de cette histoire, il y a toutes les cartes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va pas bien et qui se met en route, qui se met en branle pour changer. Et il va faire un voyage qui va le transformer. On est comme dans un road movie, quoi. C'est-à-dire que à l'époque, on prend pas la route, mais lui, il prend le train. Donc il voyage.
Et le bateau, quand même.
Et le bateau, effectivement. Effectivement,
ce qui n'est pas très agréable pour lui, il a un horrible mal de mer.
La mer est très présente et puis donc il descend vers le sud et puis c'est un voyage qui va le transformer. Il est là avec ses mâles et puis après il arrive dans des villes et il entretient des relations très fortes, très intenses avec ces villes. Et comment on fait pour arpenter une ville? Qu'est-ce que c'est que la musique qu'on entend dans les rues, par les fenêtres? Qu'est-ce qu'on mange au restaurant? Comment on trouve un logement? Il y a des conditions comme ça matérielles très très fortes et que j'ai suivre ces traces et puis qui pour lui sont effectivement très très intéressantes parce que c'est pas juste la superficialité des choses, mais c'est les conditions de vie, les conditions, ce qui va rendre la vie possible et la pensée possible. Donc je me suis attaché à ça. C'est un personnage qui me touche et je dis personnage exprès volontairement parce que pour moi c'est quelqu'un dont on peut faire un film parce qu'il a cette trajectoire, romanesque, quoi, voilà. Et l'Italie, le sud, parce que c'est ce qu'il met en branle, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un désir de ciel bleu, un désir de chaleur. on disait en présentation presque aujourd'hui, ça serait les glaces vanille fraise, quoi. Enfin voilà, c'est la Dolce Vita, avec tout l'anachronisme que ça veut être. Mais il y a quand même, on est à l'époque, la villégiature comme ça, ça se fait en hiver à l'époque. Donc on descend dans le sud en hiver pour aller mieux, pour avoir un bon climat, pour bien respirer. Donc Nietzsche, il s'inscrit là-dedans.
Et donc j'ai cru comprendre qu'il repartait de Sorinthe début mai 1877. Quelle faute de goût, non? C'est tellement beau en mai, l'Italie.
Il a horreur de la chaleur, il supporte pas la chaleur.
Ah,
voilà. Et donc il a toujours fui la chaleur, il a gagné les montagnes suisses en général pendant les étés, en Engadine, c'est là où il a eu la révélation du retour éternel. Mais effectivement, il n'aime pas la chaleur, donc ça peut nous troubler, parce que les Allemands viennent plutôt nous rejoindre en juillet-août. Moi qui ai vécu en Corse, j'ai vu des hordes d'Allemands débarquer chaque année sur les rivages corses, mais il n'aime pas la chaleur.
Il n'aime pas les hordes d'Allemands,
encore moins que la chaleur. Belle remarque, oui, je suis tout à fait d'accord. Oui, alors le voyage à Sorrente, là, c'est le plus marquant de tous ces séjours en Italie.
C'est le plus long,
c'est le premier, c'est le premier dans le temps, c'est le plus long. Il a passé 6 mois et 11 jours. Les séjours les plus longs ensuite seront des séjours à Nice. Il a passé 5 hivers à Nice et puis Turin à la fin de sa vie, mais coupé par un été en Engadine. Donc c'est un voyage qu'il a... Nietzsche est très sensitif, il est inspiré par les paysages, il vit quelque chose de fusionnel avec le paysage. Et donc, humain trop humain doit presque tout au séjour à Sorrente, le gai savoir doit presque tout aux deux séjours à Gênes, et puis ainsi par les Zarathoustra, comme chacun sait, doit énormément à Nice, puisque c'est là qu'il y a le chemin Nietzsche à Aise, que vous connaissez peut-être. J'ai eu le bonheur d'être filmé par Arte il y a quelques années sur ce chemin, et donc c'est là qu'il a eu une inspiration parmi d'autres de son cheminement.
Alors, avant de partir à Sorrente, ça c'est fréquent, mais il est rare que ce soit satisfait, il fantasme et il dit qu'il va aller dans un véritable cloître pour esprit libre, donc cette villa de la baronne von Meisenburg. Est-ce qu'on peut dire un modèle d'ailleurs? Ce que je veux juste dire, ça va être parfaitement satisfait, ce fantasme, ça va se réaliser, j'ai l'impression, exactement comme il le dit. Donc, ce cloître pour esprit libre, c'est dans sa lettre du 24 septembre 1876, Stephen Morin.
Alors, déjà pour revenir un peu sur ce que vous venez de dire juste avant et enchaîner avec la présence de Malvida, déjà il repart plus tôt que prévu, effectivement le 8 mai, alors qu'il avait prévu de rester un an, mais il faut dire que Paul Rey et Brenner sont partis, ils étaient quatre dans ce cloître avec Malvida von Meisselbunk, et donc quand ces deux amis partent, ça rompt un peu aussi la communauté, et il y a à la fois ce qui se passait dans cette association d'esprit qui nourrissait justement pour chacun ses projets personnels. Et il y a aussi le fait que Nietzsche insiste sur le fait que le voyage est une auto-formation de soi. C'est ce qui va me permettre de revenir à ce projet, effectivement, d'école des éducateurs, qui était leur projet commun, et en vertu duquel ils avaient pensé ce voyage, pensé cette association d'esprit libre. Et en même temps, cette communauté pour Nietzsche, parce que c'est une automédication, on va chercher au contact des paysages, au contact de certaines personnes, certains ingrédients qui permettent de regagner la santé, est aussi pensé dans l'alternance. Il dit également, dans une lettre à sa sœur de novembre 80, qu'il veut être son propre médecin, mais que cela suppose aussi qu'il puisse être capable de cesser d'écouter les voix étrangères et qu'il ne peut dire à quel point la solitude lui fait du bien. Donc il a besoin d'alternance entre des phases de communauté et des phases de solitude. Les phases de solitude étant comme des temps dans lesquels il va assimiler ou digérer ce qui s'est produit pendant les phases de communauté.
Et cette Malvida, baronne, on peut en dire un mot?
Alors, elle a pour lui un rôle presque maternel, c'est ce qu'il dit dans sa correspondance. Et elle a aussi un rôle un peu d'antagonisme protecteur, puisque c'est une idéaliste, et il le lui rappelle.
C'est une intello,
C'est une intellectuelle, bien sûr, c'est une protectrice aussi des intellectuels. Et elle veille sur lui, tout en jouant, donc elle le dit d'ailleurs que lorsqu'elle prépare ce voyage, que c'est qu'elle va un peu remplacer sa famille, sa sœur et sa mère ne pouvant pas veiller sur lui, ne pouvant pas s'absenter de Naumbourg pour voyager avec lui. Elle va jouer ce rôle-là, l'emmener dans des lieux qui seront propices à un regain de force. Et elle veut, pour lui, avoir ce rôle. Elle y pense pour d'autres raisons aussi, c'est très amusant. Elle essaie de lui trouver une femme à la même époque. Elle lui dit, voilà, il vous faut une compagne qui veillera sur vos intérêts, qui équilibrera votre existence. Donc elle a ce rôle d'entremetteuse.
C'est un échec.
Alors, pour les femmes, en effet.
Et Nietzsche, les femmes, c'est un peu difficile.
C'est compliqué.
Hein. Mais je dirais qu'elle a un peu un rôle d'intermédiaire dans les deux cas. C'est-à-dire, c'est l'entremetteuse avec des pensées, l'entremetteuse avec des personnes. Et l'entremetteuse, c'est aussi par elle qu'il va, lorsqu'il est à Sorrent, ils vont se rendre encore une demi-douzaine de fois chez les Wagner. Nietzsche est déjà en plein refroidissement.
Après, voilà. Parce que ce refroidissement nous intéresse beaucoup en pleine chaleur méditerranéenne. Voilà. Hein. Si ça ne vous ennuie pas, parce que là, c'est vraiment un gros morceau de cette fin des années 1870 pour Nietzsche. Je vous propose d'écouter précisément la baronne Malvida von Meisenbuch dans ses mémoires, dites mémoires d'une idéaliste, parues en 1898. Elle raconte les préparatifs de ce voyage de Nietzsche chez elle, à Sorrent, et elle cite aussi dans le texte que vous allez entendre une lettre de remerciement au fond de Nietzsche à la fin de ce voyage, une lettre du 11 mai. Non, pardon, c'est un texte d'avant, une lettre d'avant au moment de son invitation du 11 mai 1876.
La santé de Nietzsche, auquel m'unissaient depuis 1872 les liens d'une vive amitié, était devenue si précaire qu'il jugea nécessaire de demander un congé prolongé à l'université de Bâle pour prendre du repos. Il se sentait attiré vers le midi. Il semblait à ce grec assoiffé de beauté que cette délicieuse nature pourrait le rétablir complètement. Mais il avait besoin d'être entouré et soigné, et sa mère ni sa sœur ne pouvaient alors l'accompagner. Je lui écrivis pour lui proposer de venir passer l'hiver à Sorrent avec moi et de chercher le repos, voir la guérison de ses maux dans le dolce far niente du midi. Il me répondit
« Ami vénéré, je ne sais vraiment pas comment vous remercier de ce que vous me proposez dans votre lettre. Plus tard, je vous dirai comment ce mot de vous a été dit au bon moment et combien, sans ce mot, mon état se serait aggravé. Aujourd'hui, je vous annonce seulement que je viendrai. »
J'avais fait un voyage préparatoire à Sorrent et trouvé un appartement qui convenait pour la petite colonie que nous allions former après avoir été deux seulement. Nietzsche avait en effet proposé à l'un de ses très chers amis, le docteur Paul Ray, et à un de ses élèves, le jeune Balois Brenner, de nous accompagner. J'avais cherché à nous loger tous dans la même maison. Je mis la main sur une pension inoccupée, dirigée par une Allemande, située au milieu d'un vignoble. Au premier étage, il y avait des chambres pour moi et ma femme de chambre, avec un grand salon pour l'usage commun. Du haut des terrasses, on avait une vue magnifique par-delà le premier plan verdoyant du jardin, sur le golfe et le Vésuve, qui étaient alors en pleine activité, et on voyait le soir des colonnes de feu vers le ciel.
Le Vésuve, hein, c'est ce qu'il regarde par la fenêtre. La mer, par ailleurs, est partout. Plus tard, il dira qu'il faut construire nos villes au pied du Vésuve. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire ces villes, Philippe Granarolo?
Alors, les volcans ont beaucoup marqué la vie de Nietzsche. D'abord, le Vésuve, effectivement. Vous avez raison de rappeler qu'on le retrouve dans le Gai Savoir. On retrouve quantité d'éléments du séjour de Sorrent dans les œuvres de Nietzsche. Dans le Gai Savoir, d'abord, vous avez cité ce texte, Homme préliminaire, qui est magnifique. Et puis, dans le Zarathoustra, qui est rempli de souvenirs, les îles bienheureuses, l'île d'Ischia, qui l'a beaucoup marqué, qui l'a fasciné. Et puis, puis le Vésuve qui ressemble à une île quand on le voit du balcon de Sorrente. Donc effectivement, les volcans, ensuite il ira sur l'Etna, mais vous en parlerez demain, c'est le voyage en Sicile. Il gravira les pentes de l'Etna, pas jusqu'au sommet. Et puis il apprend lors de son quatrième séjour à Nice que la baie des Anges, et ça je l'ai appris grâce à Nietzsche, je l'ignorais, moi qui ai fait mes études à Nice, c'est un ancien volcan, la baie des Anges, c'est le cratère d'un ancien volcan. Et donc les Niçois ont fait comme les Napolitains, ils ont bâti leur ville au pied d'un volcan, et ça renforcera l'admiration, la fascination même de Nietzsche pour Nice pendant très très longtemps. Voilà, donc les volcans, c'est le symbole de la fragilité de l'être humain, de la vie. La vie est miraculeuse, elle est là sur Terre, elle peut disparaître demain matin. Et donc Nietzsche insiste beaucoup sur ne roulons pas trop des mécaniques, nous sommes des êtres fragiles, des êtres voués à disparaître un jour, et il faut avoir cette conscience aiguë, ce qui explique d'ailleurs quelque chose qui est difficile à comprendre pour ceux qui lisent Nietzsche. Pourquoi dit-il que Pascal est son ancêtre, Pascal le philosophe du Paris et Nietzsche le philosophe de la mort de Dieu? Pourquoi il fait de Pascal son ancêtre? Parce que Pascal est celui qui a le mieux décrit la fragilité de l'être humain perdu entre les deux infinis, la condition de l'homme, et il se sent très proche de Pascal sur ce plan-là. Voilà pourquoi le volcan, c'est important, ça nous rappelle en permanence notre fragilité. Et puis il y a eu ce voyage à Pompéi également pendant le séjour à Sorrente, il a servi de guide à ses amis. Il y a eu quantité d'éléments qui ont fait ressurgir dans l'esprit de Nietzsche ce qu'il avait écrit dans La naissance de la tragédie, la proximité de la vie et de la mort. Voilà, le carnaval de Naples, on va peut-être en reparler tout à l'heure.
Oui, oui.
Voilà, donc il y a beaucoup d'éléments qui sont repris dans ses œuvres, et c'est une période de grande production. Les paysages ont véritablement inspiré Nietzsche profondément. Il doit ses œuvres à ces paysages qui l'ont marqué jusqu'au fond de son être.
Est-ce qu'on pourrait opposer les volcans aux montagnes? Les montagnes sont froides, gelées.
Tout à fait.
Les montagnes sont des paysages du nord. Totalement. Le volcan, c'est la montagne au sud. Yvan Butel, vous qui êtes réalisateur, cinéaste, c'est une sorte d'opposition terme à terme?
Il y a plein d'oppositions, mais je voulais juste revenir un instant sur ce séjour organisé par Malvida. Et je dis organisé parce que on sent que ce séjour-là, il est presque comme un truc, je vais dire quelque chose un petit peu encore d'anachronique, mais c'est presque un voyage de tour opérateur, c'est un voyage organisé. Elle a choisi un logement, les conditions matérielles sont bonnes, elle s'est chargée de tout. Et ça tranche avec les voyages qui vont suivre et qui seront des voyages avec des conditions matérielles beaucoup plus pénibles, où Nietzsche devra se débrouiller par lui-même, chercher à subvenir à ses besoins, souffrira du froid, etc. Tout ça pour dire que Sorrente, c'est quand même un petit peu différent. Il y a une forme de luxe et de facilité, et c'est un voyage aussi culturel, et c'est un voyage entre amis, et c'est un voyage où se pose moins cette question d'être isolé ou être accompagné. Il y a une forme d'équilibre à Sorrente, on a l'impression, et tout va ensuite se déséquilibrer, et les questions d'être seul ou être avec les autres, appeler à l'aide ou rester tranquille et ne pas vouloir donner son adresse, tout ça, ça va arriver par la suite. Et donc Sorrente, c'est un petit peu un état de grâce, c'est comme le temps calme avant la tempête, quoi, avant que tout devienne plus compliqué. Voilà. Sinon, je sais plus ce que...
Non, je voulais vous demander si les volcans... quelle est cette métaphore? C'est plus qu'une métaphore, c'est un paysage
la montagne
qu'il adore, c'est la montagne chaude. Et vous parliez tout à l'heure de Pascal, parmi les références un peu paradoxales de Nietzsche, il y en a une autre qui est opposée, qui est Voltaire.
Absolument.
Et Voltaire est en éruption, vous ne trouvez pas?
On peut dire ça, oui.
Dans ses colères publiques.
Voltaire le sert surtout à prendre des distances définitives avec Wagner, parce qu'on pourrait dire c'est l'anti-Wagner. À l'époque, on prend Nietzsche pour un romantique et on continuera à le prendre comme tel, parce qu'il a écrit, je dirais malheureusement, La naissance de la tragédie, qui est un obstacle à la bonne compréhension de Nietzsche. Moi, je disais à mes étudiants, ne lisez pas La naissance de la tragédie, ou alors lisez-la quand vous aurez lu l'intégralité de l'œuvre de Nietzsche.
Oui, cherche le dionysiaque, un peu comme un romantique
classique. C'est un livre inspiré par Wagner, c'est un livre où on a l'impression d'un Nietzsche nationaliste allemand, alors qu'il a horreur de tout ça. 2 ans auparavant, il a rejeté complètement les lettres à sa famille, le démontre, toute l'idéologie wagnérienne. Donc, il ne sait plus quoi faire, en fait, jusqu'à la fin de ses jours. La preuve, c'est qu'en 1888, il consacre 2 livres à Wagner. On se demande pourquoi. Pourquoi Wagner revient comme ça sur le devant de la scène? Parce qu'il ne sait plus quoi faire, le pauvre Nietzsche. pour s'arracher de son front l'étiquette de nationaliste wagnérien, d'antisémite. Il est aux antipodes de cette idéologie, qui est celle de sa sœur, qui se permettra d'écrire la volonté de puissance, le plus grand faux de l'histoire de la philosophie, j'aime cette formule.
Un petit montage arrangé
avec des phrases trafiquées, voilà, qui a joué un rôle catastrophique dans la réception de l'œuvre nietzschéenne, bien entendu.
Alors, je vous remercie de citer La naissance de la tragédie, qui est quand même un livre impressionnant. Paolo Diorio, qui est un chercheur, philosophe, a écrit un livre sur Nietzsche à Sorrent. Je suis tout à fait navrée qu'il n'ait pas pu être avec nous aujourd'hui. Mais justement, dans son ouvrage, il précise ce qu'était La naissance de la tragédie. Déjà, il y avait une certaine idée de réformer la culture allemande, mais sur un mode romantique. Et Nietzsche dira a posteriori, d'ailleurs, qu'il y combinait des éléments de Schopenhauer et du drame wagnérien. Ce qui est intéressant, Tiphaine Maury, c'est que quelques années après, et singulièrement au retour de Sorrent, en 1878, ce sera tout à fait clair dans ses écrits, Nietzsche dira qu'il avait une tendance à mettre le monde sous la cloche de verre du mythe et de la métaphysique, et finalement, il ne veut plus mettre la civilisation sous cloche de verre. Je cite le passage de Paolo Diorio. Il a décidé qu'il lui fallait, je cite cette fois Nietzsche, se débarrasser de ce qui ne fait pas partie de lui. Beaucoup trop de choses avancées quand il était jeune ne faisaient pas, en vérité, partie de lui. Tiphaine Maury.
Oui, alors il me semble que ça, c'est vraiment une clé décisive pour comprendre ce voyage, et qui d'ailleurs n'est pas déconnecté de ce qu'on vient de dire sur le dionysiaque. La naissance de la tragédie, c'est un livre qui est, pour Nietzsche, écrit dans une langue qui n'est pas encore la sienne. Mais c'est un livre dans lequel on retrouve tous les thèmes qui vont être filés par la suite. C'est pas un livre de Schopenhauerien, c'est un livre de quelqu'un qui emploie le langage de Schopenhauer pour s'adresser aux gens de sa génération, mais pour leur dire tout autre chose. Et ce dont il leur parle, effectivement, c'est le dionysiaque. Mais le dionysiaque, ce n'est pas autre chose que ce qu'il va chercher à Sorrent quand il va essayer de construire là-bas sa théorie de l'esprit libre. Et c'est cette théorie de l'esprit libre qui est au centre de ses préoccupations lorsqu'on regarde les carnets préparatoires qu'il écrit. Donc les notes qu'il prend lorsqu'il est à Sorrent sont consacrées à l'esprit libre. Et l'esprit libre, c'est cette capacité, justement, pour revenir sur ce que vous venez de dire, c'est cette capacité de pouvoir se détacher des règles de la morale, plus particulièrement pour lui, hein, qui domine une époque, qui domine le milieu dans duquel on vient. Et donc, ce qu'il va chercher là-bas, c'est cet esprit dionysiaque qu'il pense pouvoir trouver aussi à Sorrent. Il faut jamais oublier que Sorrent, c'est Naples. Il associe toujours Sorrent près de Naples, hein, dans sa correspondance. Naples, c'est l'ancienne Parthénope. C'est une ville de la Grande Grèce qui, pendant longtemps, a gardé, il le rappelle, des coutumes et un esprit grec, et dans lequel on peut retrouver, c'est aussi ça l'esprit du Sud, justement, une certaine liberté d'esprit qu'on va retrouver dans le carnaval, cette capacité à renverser l'esprit dominant, cette capacité d'insurrection, cette capacité d'impertinence qui est capable de renverser les valeurs. Donc c'est à Sorrent qu'il va chercher cet esprit dionysiaque, même si ce n'est plus le terme qu'il emploie, mais qu'il va réinvestir dans la théorie de l'esprit libre. Et c'est ça qui, pense-t-il, peut le guérir de cette maladie, qui n'est pas simplement chez Nietzsche la maladie. Il faut bien voir, lorsqu'il écrit par exemple la préface au Gai Savoir en 87, qu'il ajoute au premier volume paru en 82, la préface est consacré à la maladie de Nietzsche et au fait de recouvrir la santé. Et la maladie, pour lui, c'est pas simplement les migraines ophtalmiques ou les nausées. La maladie, c'est une manière de traduire par symptômes physiques une contradiction des valeurs qui se sont accumulées dans l'européen moderne. Il dit, voilà, moi je suis malade de la morale européenne et je vais chercher dans le Sud de quoi me guérir de cette maladie-là.
Même si le Sud est européen aussi, le sien en tout cas. Mais c'est le problème, c'est quand même l'Allemagne, quoi. Une espèce de romantisme allemand qui cherche le profond, le colossal, dira-t-il plus tard dans son texte contre Wagner, alors que ce qu'il découvre à Naples, c'est le jeu des masques, et le léger et la surface. C'est beaucoup plus intéressant que le profond un peu lourdeau. Je vous propose d'écouter un texte de Nietzsche justement sur le carnaval de Naples. Il s'était rendu chez le médecin pendant son séjour à Sorrente et il est arrivé en plein carnaval à Naples, dans une rue latérale. Il voit arriver un corbillard, il entend les rires, aussi un rapport à la mort qui est tout à fait intéressant. On écoute.
De même que de vieilles cérémonies religieuses, d'abord chargées de sens, finissent par n'être plus que des vestiges incompris d'une superstition, de même l'histoire en général, si elle ne survit plus qu'à la manière d'une habitude, ressemblera à une absurdité magique ou à un travestissement carnavalesque. Le soleil qui serait descendu auréoler le pape lors de la proclamation de l'infaillibilité, la colombe qu'on aurait vue voler à ce moment nous semble maintenant de petites astuces scabreuses, ne visant qu'à faire illusion. Mais la vieille civilisation en est pleine. Elle ne distingue pas encore où commence l'illusion. À Naples, ces jours-ci, un fastueux corbillard catholique s'avançait avec son cortège dans une des ruelles latérales, pendant qu'à proximité immédiate se déchaînait le carnaval, avec tous ses chars bariolés imitant le costume et la pompe des civilisations d'autrefois. Mais ce cortège funèbre sera lui aussi quelques jours le même cortège carnavalesque de l'histoire. Il reste la coquille bariolée qui amuse. L'amande s'est envolée. Ou bien il s'y cache un dessin d'imposture, comme dans les tours dont se servent les prêtres pour réveiller la foi.
Parlons de Nietzsche en Italie cette semaine, nous le suivrons de ville en ville, en commençant par son premier voyage de 1876-77 à Sorrente, invité par la baronne. Malvida, la baronne, était interprétée tout à l'heure dans son texte, un extrait de son œuvre par Carla Michel de notre équipe. Et là, vous entendiez Nietzsche évoquer le carnaval de Naples. C'est notre réalisateur Nicolas Berger qui lisait ce texte. Philippe Granarolo, qu'est-ce que c'est exactement pour Nietzsche? Qu'est-ce que ça signifie? Le cortège carnavalesque de l'histoire. Expression qui vient d'être employée.
Excellente et difficile question. Avant de vous répondre, je voudrais avertir nos auditeurs ce que notre ami Tiphaine a dit sur la naissance de la tragédie pourrait leur faire croire que nous sommes en contradiction tous les deux, ce qui n'est pas du tout le cas. Les authentiques Nietzschéens ne sont jamais en contradiction les uns avec les autres. Donc il y a bien sûr, Tiphaine a raison, dans la naissance de la tragédie, des points de départ qui sont ceux des grandes pensées qui viendront par la suite. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est ce côté nationaliste allemand, fasciné par une culture qui va renouveler complètement la civilisation. Nietzsche n'y croit pas. Au moment même où il écrit La naissance de la tragédie, il a cessé d'y croire depuis très longtemps. Je donne quelques exemples. Il a, dans la première Inactuelle de 1873, il dit que la société, la culture allemande est une caricature de la culture, que c'est un bariolage forain. Et dans la seconde Inactuelle, en 1874, il dira que la société allemande est politisch und polizeilich, politique et policière. C'est pas des compliments vraiment pour sa culture. Donc il y a un rejet profond de Nietzsche pour l'Allemagne, excessif d'ailleurs, parce que l'Allemagne n'a pas que des défauts, mais il y a ce rejet, cette attirance, cette fascination pour le Sud, cette volonté de renouer avec les origines grecques de la philosophie qui sont tout à fait importantes. Alors le carnaval de Naples, oui, ça l'a beaucoup marqué, ce carnaval qui est dans lequel ils vont croiser un corbillard qui va traverser donc, ce mélange de la vie et de la mort qui lui rappelle effectivement la naissance de la tragédie, les pages les plus inspirées. Si vous m'autorisez, je voudrais lire quelques lignes très rapides de mon journal imaginaire qui sont ce que je voudrais dire. Au milieu d'une pluie de confettis, nous croisons un corbillard qui, à son tour, me rappelle la proximité de la vie et de la mort à laquelle j'ai consacré plusieurs chapitres de la naissance de la tragédie. Dionysos meurt déchiqueté pour ressusciter au printemps. Dieu du vin, de la vie, de la sexualité, symbole de la puissance sans borne de la nature, il incarne le pôle tragique qui interdisait aux Grecs de se complaire dans l'illusion. Je grave dans mon esprit l'image de ce corbillard traversant une foule en liesse. Naples, à n'en pas douter, a choisi en ce jour de me traiter avec une infinie bienveillance. La ville, en fait, me confirme que le temps n'est pas linéaire, que des pans entiers du passé peuvent à tout instant renaître, comme a ressurgi dans les rues de Naples tout un morceau des Dionysies que célébraient avec tant de ferveur les Athéniens il y a plus de 20 siècles. Alors, pardonnez-moi cette autoréférence, mais je ne me sens pas capable de dire quelque chose de plus achevé que ce que j'ai écrit dans ce livre qui résume effectivement ce que je pense du carnaval et de cette proximité de la vie et de la mort. Et ce morceau grec, vous l'évoquiez qui est très bien tout à l'heure, Naples, ville grecque, effectivement, même ville de la légèreté, qui, comme les Grecs, les Napolitains sont comme les Grecs, ils sont superficiels par profondeur, pour employer une célèbre formule. Donc oui, il y a cette fascination pour la légèreté, pour l'ironie, pour le fait de ne pas se prendre au sérieux, ça c'est une obsession chez Nietzsche, la danse comme symbole de cette légèreté, voilà, et il retrouve ça chez les Napolitains. Alors le carnaval, il en vivra un autre lors de son dernier séjour à Nice, et là aussi, la vie et la mort, c'était quand même très étonnant. Il voit passer par sa fenêtre le carnaval, il entend les tambours, et c'est le soir même, il y aura un énorme tremblement de terre qui va saccager une partie de la ville de Nice, et il va se promener toute la journée en ironisant. Il sourit, il est pas très plein d'empathie pour les Niçois, mais il regarde avec ironie les Niçois déguisés qui sortent des caves en ruine, et il a à nouveau la proximité de la vie et de la mort qui apparaît pendant ce moment.
Alors, puisque vous évoquez Nice, tout à l'heure on va revenir sur les enjeux par rapport à l'Allemagne et par rapport à Richard Wagner, qui sont très présents lorsqu'il va en Italie, mais là vous évoquez tellement bien Nice que je suis tentée tout de suite de vous faire entendre un extrait du film d'Yvan Butel, où justement vous rappelez que pour Nietzsche, l'Italie, ça commençait en fait à Nice. Et ne serait-ce que d'aller à Nice, il retrouvait exactement la lumière italienne. Et d'ailleurs, il y a des fantasmes autour de Nietzsche à Nice, chez les Niçois d'aujourd'hui. Écoutez.
Examinez le beau symbole de Nice. C'est Cosmopolis, si l'on fut jamais en Europe. Ma rue est le type de rue selon le schéma italien. Et les gens qui s'y trouvent sont d'authentiques habitants de la Riviera. Vous devriez tâter une fois de ce Nice et laisser l'Allemagne à l'Allemagne.
Moi, en tant que barman, si j'avais vraiment la possibilité de servir vraiment à boire à Nietzsche et discuter aussi, c'est pas dans notre superbe salon, mais aussi sur la plage de la promenade des Anglais à Nice, qui quand même c'était sa ville pendant un certain moment, il analyse la condition humaine du bas. Donc, on parle vraiment des bars, des périphéries, on parle de la fréquentation des prostituées, on parle des quartiers ghettos, on parle des hôtels, avec des hôtels, des chambres louées, donc avec vraiment des situations qu'il s'est passé dans cet hôtel, dans cette chambre, dans cette maison. Même il était quelqu'un qui l'avait déjà photographié tout, parce qu'il était quand même un homme libre et il avait quand même il n'avait pas des chaînes. Et je vous dis, c'était vraiment un Spartacus de la... Moi, je le vois comme ça, un révolutionnaire, un visionnaire, quelqu'un qui me forme. Désolé, monsieur,
Il est formidable, ce personnage de votre film, Yvan Butel.
Ben ça, quand je parlais de road movie, effectivement, on va sur un tournage qui est assez écrit, assez cadré, et puis on se dit, on va faire une interview avec Philippe Granarolo ou avec quelqu'un, etc. Et puis, il y a les rencontres et il y a les trouvailles, presque un truc comme les trouvailles des surréalistes, en fait. C'est-à-dire que on cherchait Alors, à Nice, c'est difficile d'éviter les grands hôtels sur la promenade des Anglais. Et puis, on va faire des plans d'illustration comme ça, et on arrive dans cet hôtel magnifique avec les salons, et puis il y a un très beau restaurant avec une baie vitrée, et on demande au maître d'hôtel si on peut faire quelques images, et puis il nous dit c'est pourquoi, et on dit c'est un film sur Nietzsche. Et là, la personne, elle démarre au quart de tour en disant « Mais Nietzsche, avec son accent que vous avez entendu, c'est donc un Italien, Saverio, qui travaille là, qui est embauché, maître d'hôtel. » Et puis qui dit « Mais Nietzsche, c'est le personnage de ma vie. Nietzsche, il est extraordinaire. J'adore Nietzsche. Il faut que vous y alliez là. » Et puis, en plus, il le raconte d'une manière complètement... complètement comme ça, intempestive. Alors, il compare Nietzsche à Spartacus. Et puis après, c'était Nietzsche Kerouac et c'était Nietzsche sur la route. Nietzsche spécialiste des bas-fonds. Donc, ce qu'il nous dit en creux, c'est en gros, vous vous êtes planté. Il faut pas aller dans les grands hôtels. Il faut aller dans les pensions de famille, mais qui malheureusement n'existent moins que les grands hôtels parce que finalement, l'argent aide à conserver les choses. Les pensions de famille du vieux quartier de Nice. Et puis là, c'était à l'époque une ville effectivement italienne. Donc, tout se recoupe comme ça. Il y a ce maître d'hôtel italien qui nous dit, vous êtes pas au bon endroit. Nietzsche, c'était l'homme des bas-fonds. C'était l'homme qui faisait la chronique de cette espèce de précarité. Et puis, c'est le, comme on dit, l'œuvre appartient au lecteur. C'est-à-dire qu'il a une manière très libre de s'en emparer et de faire une sorte de déclaration d'amour, comme ça, nietzschéenne, un petit peu décalée, assez provocatrice, mais qui finalement est pas complètement étrangère au personnage.
Et au début de l'extrait, on entend évidemment des mots de Nietzsche que vous mettez dans votre voix.
C'est ça, effectivement, je prends comme dans une espèce de folie des grandeurs, je joue à Nietzsche et je donne ma voix, je fais la voix off de mon documentaire et je lis ses correspondances. C'est un film qui n'est basé que sur ses lettres et on n'a jamais le retour, c'est-à-dire la lettre des gens qui lui écrivent, ce qui renforce effectivement la sensation d'immense solitude, puisqu'on a des lettres sans réponse et des lettres dans lesquelles parfois il appelle au secours et parfois au contraire, il dit « ne donnez pas mon adresse » et notamment à 10, il dit « ne communiquez pas mon adresse, j'ai besoin d'être seul pour écrire ». Voilà.
Le philosophe qui rêvait d'une île, c'est le titre de ce film qui, je crois, a été diffusé sur France Télévisions ?
Il est encore disponible plateforme de France.tv, oui, oui.
Vous voulez dire un mot, là, Philippe Granarolo ?
Moi, je voulais dire, il a parlé de folie des grandeurs, je me suis senti un peu visé, parce qu'il a pris la voix de Nietzsche, moi j'ai
mais
pris l'écriture
Nietzschéens...
de Nietzsche. Donc on a tous un peu la folie des grandeurs.
Mais Nietzsche
voilà.
Lui-même l'avait, alors, tous les Nietzschéens l'ont, et on vous pardonne facilement.
Merci, c'est très gentil.
Tiphaine Maury, vous êtes d'accord ? Il faut bien un peu se prendre pour un oiseau de proie pour parler comme Nietzsche, lorsqu'on est Nietzschéen.
Oui, sans doute qu'il y a un équilibre que cherche Nietzsche lui-même, justement, entre une tendance peut-être à l'hubris, ou en tout cas une tendance qui est celle du renversement, créer des complexes de puissance, dit-il parfois, plus grands. Et l'esprit des Saturnales que l'on retrouve dans le carnaval, c'est toujours cette tendance, justement, à dissoudre les règles et à essayer de créer quelque chose de plus grand. Et c'est sans doute aussi cette recherche de la grandeur ou cette recherche de la beauté qui guidait Nietzsche dans ses déplacements, tout particulièrement à Sorrente. Et comme on parlait tout à l'heure à la fois de ce mélange de mer, de montagne, de volcan, il le thématisait très clairement en disant que c'était ce type de paysage qui pouvait, donc ce type de paysage qu'il qualifiait d'idyllique, qui était propice à la naissance des sentiments héroïques. Et donc, peut-être cette folie des grandeurs, si c'est l'héroïsme pour lui, l'héroïsme ne peut pas naître n'importe où. Il faut justement qu'il y ait une beauté, parce que la beauté, c'est ce qui exprime la maîtrise. Et il parle, par exemple, du temple de Paestum, que l'on trouve non loin de Sorrente, en disant, voilà, il semble surgir parfaitement achevé d'une beauté immédiatement parfaite, mais c'est le résultat d'une maîtrise et d'un travail et d'une discipline qui a demandé des siècles pour pouvoir être acquise, cette discipline proprement grecque. Et donc, ce qu'il va chercher là-bas, c'est aussi dans la beauté des paysages, puisque on parlait tout à l'heure de l'attachement de Nietzsche au paysage. C'est parce que pour Nietzsche, il y a un paysagisme, on pourrait dire, de la pensée, au sens où le beau va à la fois traduire une certaine perspective vitale. Il faut peut-être être en bonne santé pour percevoir la beauté, mais le beau en même temps renforce, tout comme il dit que la laideur affaiblit. Et donc, le beau va venir renforcer la capacité ensuite esthétique à créer la beauté. Il y a cet effet circulaire pour lui. Il faut être dans des cadres beaux pour être capable de créer la beauté, puisque c'est ce sentiment justement de maîtrise, ce sentiment d'unité, on pourrait le dire comme ça, des paysages, qui ensuite donne la capacité héroïque, on va dire, de conquérir de nouvelles formes de beauté, de produire ces formes
de
beauté.
Parler de beauté, alors là, c'est obligatoire. Il faut que je parle de l'île de beauté, la Corse.
Oh, quelle histoire.
Philippe Granarolo.
Qu'est-ce qu'il a...
Pardonnez-moi. Voilà, Granarolo. Nietzsche l'a beaucoup fantasmé, la Corse, mais il n'y est jamais allé, c'est pourtant pas
loin. C'est pas très loin, et il a manqué la Corse, c'est pour ça que j'ai écrit un petit paragraphe imaginaire dans mes carnets, parce qu'il n'a pas, il n'a jamais pu, il y a trois projets très précis de voyage en Corse, ça ne s'est jamais fait.
C'est comme la Grèce.
Un peu comme la Grèce, mais là c'était vraiment des projets précis avec même des points d'arrivée, de chute. Et le dernier projet, c'est 1888, il a le projet d'aller s'installer à Corte avec son secrétaire, Peter Gatz, enfin le musicien Heinrich Koselitz.
On parlera beaucoup de lui aussi cette semaine, surtout dans l'épisode sur Venise.
Tout à fait, un personnage très important dans la vie de Nietzsche. Et donc il rêve d'aller à Corte. Pourquoi Corte, dit-il? Parce que c'est là, alors je ne sais pas quel calcul il a fait, c'est là que Napoléon a été conçu par ses parents. C'est plus important que sa naissance à Ajaccio. Quand j'ai dit ça en Corse, les Ajacciens n'étaient pas très contents. Et puis c'est là qu'a vécu Pascal Paoli. Et alors là, il a une formule absolument extraordinaire dans une lettre. Il dit « L'homme le plus accompli du XVIIIe siècle ». Où est-ce qu'il est allé chercher ça? Alors évidemment, les nationalistes corses boivent du petit lait quand on leur cite cette formule.
Alors que Nietzsche, comme on vient de le dire, n'aimait pas beaucoup de nationalisme.
Non, il n'aimait pas beaucoup de nationalisme, ni allemand, ni corse. Mais voilà, il rêvait de s'installer et puis ça s'est pas fait. Et je dis un peu ironiquement ou sérieusement, j'en sais rien, dans mon journal imaginaire, que se serait-il passé si Nietzsche était allé en Corse? Peut-être qu'il aurait profité de ce qu'il appelle les forces telluriques qu'on a dans ces îles, la Sicile, la Corse, et peut-être qu'il aurait évité de sombrer, il n'aurait pas connu cet épisode tragique de Turin en janvier 89, il aurait peut-être eu quelques années de vie supplémentaire, la Corse lui aurait peut-être donné un second souffle, voilà, je me mets à fantasmer à mon tour, mais il n'est jamais allé en Corse, et il était fasciné, il prétend à un moment donné, alors ça c'est très amusant, quand il habite le square des Phocéens à Nice, il dit « J'ai vu la Corse par ma fenêtre ». Alors le pauvre Nietzsche qui ne voit pas à 3 mètres, qui est quasiment aveugle, il a vu la Corse. Moi j'ai vécu 5 ans à Nice, je n'ai jamais vu la Corse depuis Nice, on la voit une fois tous les 50 ans. Donc il a vu la Corse, mais il l'a rêvé la Corse, donc il l'a vu, puisque pour lui le rêve, oui, la perception, l'imaginaire ne sont pas séparables.
Tiphaine Maury, j'aimerais qu'on enfonce un peu le clou sur Richard Wagner et Nietzsche. Bon, Wagner avait déjà beaucoup de défauts que Nietzsche ne supportera plus au moment où il l'a rencontré. C'est un drôle d'itinéraire, Wagner. Il a été un moment un peu anarchiste, dans les cercles anarchistes avant les révolutions de 1848. Il était sympathisant de ces printemps des peuples. Et puis après, d'une part, son antisémitisme est clair dès 1850 dans un fameux article sur les Juifs dans la musique. Et pour lui, c'est vraiment pas ce qu'il préfère, et de grands musiciens comme Arnold Schoenberg qui admirent Wagner essaieront d'oublier cet odieux texte. Mais ce que je crois, c'est que, enfin voilà, plus on y réfléchit tous quand on travaille sur Nietzsche, je me demande si c'est pas Cosima, la deuxième épouse de Wagner, qui est responsable de cet attachement. Il était fou d'amour pour elle, elle était la fille de Franz Liszt. Elle était encore plus antisémite que Wagner, disent les historiens. Mais c'est sa beauté, une fois de plus, qui... Et puis, ils avaient une propriété en Suisse, lui, il était à Bâle. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Wagner, alors qu'ils n'avaient rien en commun avec eux, Tiphaine Maury?
Alors, ça pourrait nourrir un dossier conséquent, hein, pour consacrer, je pense, une semaine d'émission à la relation de Nietzsche à Wagner. En tout cas, si on se cible un peu, pour vous répondre sur ce qui se passe à Sorrente, on voit que ils vont dîner, la petite communauté sous le patronage de Malvida va aller dîner chez le couple Wagner, et Nietzsche n'en parle presque pas. Il y a une carte postale ou deux où il évoque le fait qu'il y soit allé. On voit dans la correspondance de Cosima Wagner qu'elle évoque à peine Nietzsche. Avant qu'il arrive, elle dit « l'ami Nietzsche va venir », et puis après, il n'est question presque que de Malvida, et lorsqu'il est question de cette petite communauté, c'est effectivement pour mentionner que ils ont cru reconnaître chez le très froid Paul Rey une tendance israélite. Donc voilà, c'est effectivement, il y a très clairement chez les Wagner, cet antisémitisme qui va être un point de désaccord fondamental, de désaccord, oui, axiologique, hein, au niveau des valeurs. Pour Nietzsche, celui qui déteste le sang étranger, dit-il, n'est qu'un protoplasme humain. C'est-à-dire, il n'y a absolument pas de compatibilité possible entre l'antisémitisme et Nietzsche, quoique...
D'où le comble quand on nous dit qu'il y a eu une filiation avec le nazisme. Ça, c'est à cause de la sœur de Nietzsche, mais c'est vraiment... S'il y en a bien un qui détestait tout cela, c'est Nietzsche. Il lui a, semble-t-il, fallu l'Italie Sorinthe en 76-77 pour que ce soit plus clair que jamais, plus lumineux que jamais, qu'il devait s'en aller, quitter cette Allemagne lourde, pesante. L'Italie, c'est un voyage qui permet d'oublier. Je rappelle que l'oubli est une vertu pour Nietzsche.
Je te téléphone près du métro Rome. Paris sous la pluie me lance et m'ennuie. La Seine est plus grise que la Tamise. Ce ciel de brouillard me fout le cafard. Paris pleut toujours sur le Luxembourg. Il y a d'autres jardins pour parler d'amour. Il y a la tour de Pise, mais je préfère Venise. Viens, fais tes bagages, on part en voyage. Je te donne rendez-vous à la gare de Lyon. Sous la grande horloge, tu sais, près du portillon. Nous prendrons le train pour Capri la Belle, pour Capri la Belle avant la saison. Viens voir l'Italie comme dans les chansons. Viens voir les fontaines, viens voir les pigeons. Viens me dire je t'aime comme tous ceux qui s'aiment à Capri la Belle en toute saison. Paris, mon Paris, au revoir et merci. Si on téléphone, j'y suis pour personne. Je vais dorer ma peau dans les pays chauds. Je vais m'ensoleiller près des gondoliers. Juste à l'aube grise, demain c'est Venise. Chante barcarolle, j'irai en gondole. J'irai sans sourire au pont des soupirs pour parler d'amour à voix de velours. Taxi, menez-moi à la gare de Lyon. J'ai un rendez-vous près du portillon. Je vais prendre le train pour Capri la Belle, pour Capri la Belle avant la saison. Passant par Vérone, derrière les créneaux, je vais voir le fantôme du beau Roméo. Et je vais dire je t'aime à celui que j'aime. Ce sera l'Italie comme dans les chansons. Taxi vite ballon à la gare de Lyon.
Barbara, inoubliable, Gare de Lyon 1964. Eh bien, il n'y a pas que dans les chansons que l'Italie produit cet effet. Nietzsche y croyait. L'Italie, c'était comme un arrachement décisif, majeur, une libération. Merci beaucoup Philippe Granarolo, Yvan Butel, Tiphaine Maury pour tout ce que vous avez dit là-dessus ce matin à propos du voyage, le premier voyage en Italie de Nietzsche à Sorrente. Et alors aujourd'hui, avant d'entendre la chronique de Frédéric Worms, je voudrais que nous rendions un hommage maintenant au philosophe allemand Jürgen Habermas, qui est mort samedi 14 mars. Habermas avait une renommée internationale. Il a beaucoup travaillé sur cette activité humaine qui consiste à discuter ensemble. Il se demandait si et comment nous pouvons faire advenir une rationalité issue de ce travail de la discussion collective. Écoutez-le dans cet archive de 2005.
I suppose that democracy is at least one major issue in my life.
Je suppose que la démocratie est un des problèmes qui m'a toujours intéressé. C'était l'alternative évidente au régime dans lequel j'avais vécu jusqu'à mes 15 ans.
What at that time was called re-education.
Je suis aussi un produit de ce qu'on appelait, dans ce temps-là, la rééducation. Donc elle est une constante de mon travail depuis le début, et jusqu'à ce à quoi je m'intéresse à présent. Par exemple, la philosophie du droit et le droit international. J'ai toujours été convaincu qu'il y a une dimension cognitive dans cette procédure démocratique. Et c'est pourquoi je suis un des premiers et des plus vigilants défenseurs de la démocratie délibérative.
Et dans cette archive de 2005, vous entendez Habermas situer son travail de philosophe dans son rapport à l'Allemagne, à l'Allemagne d'après-guerre. C'est très important, nous y reviendrons peut-être, car toute la semaine, nous vous proposons de rendre hommage à Habermas en fin d'émission. Vous entendrez des philosophes d'aujourd'hui qui admirent son œuvre et qui reposeront peut-être cette question de son rapport à l'Allemagne. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms, dont la série cette semaine a pour thème la domination, comment l'approcher, comment la penser. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi est-on soumis à la domination ? Notre imaginaire démocratique contemporain est si important, si prégnant, et d'ailleurs c'est presque une confirmation de sa dynamique qui demeure parmi nous. Notre imaginaire démocratique, encore une fois, est si profond, si important, comme Alexis de Tocqueville l'a montré, que la domination est pour nous toujours une surprise et même une sidération. Pour nous, l'imaginaire de, ou la théorie ou l'expérience de la liberté et de l'égalité de tous les êtres humains est devenue une toile de fond si générale que nous sommes sidérés quand nous soumettons une liberté à celle d'un autre et quand nous entrons dans le domaine, si j'ose dire, de la domination. La domination qui est justement la contrainte que fait peser une liberté sur une autre, un être doté d'une liberté sur un autre. C'est proprement ce que l'on peut appeler la domination. Ce terme de domination qui renvoie à latin à l'expérience de la maîtrise. Dominus, c'est le maître, et à la relation du maître et de l'esclave. Ce maître et l'esclave qui, d'une certaine façon, font que on considère que les êtres humains ne sont pas tous libres, qu'il y a des êtres libres et qui dominent donc d'autres qu'on considère comme non dotés de liberté. Tocqueville avait raison. Depuis la Révolution française, nous considérons de façon absolument générale, comme une toile de fond de l'histoire humaine, que, comme le dit la Déclaration des droits de l'homme, tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Ainsi, cet absolu de la liberté et de l'égalité humaine fait de la domination un phénomène incompréhensible, archaïque, sidérant, et qui pourtant ne cesse de revenir. Il y a de la domination individuelle des êtres qui cherchent à nous dominer, il y a de la domination politique, il y a même de la domination inconsciente, il y a des biais, des a priori qui font que, par exemple, comme dans ce que Pierre Bourdieu appelait la domination masculine, tout un ensemble de différences supposées entre des êtres humains articule une dissymétrie, une domination de certains êtres plus libres que d'autres dans notre société, et notre imaginaire démocratique a raison d'y résister. Mais l'erreur de cet imaginaire démocratique, c'est de considérer que la liberté est première et que la domination est seconde. Peut-être au contraire, dans les notions même de démocratie, entendons qu'il faut résister à une domination d'une partie du peuple sur l'autre. Démocratie, c'est le pouvoir du peuple, et même à la domination que certains peuvent faire au nom du peuple. L'imaginaire démocratique peut être perverti lui-même en réalité de domination. En fait, il faut assumer le fait, comme le disait Bergson de la guerre sur la paix, et que la domination est peut-être première dans l'expérience humaine sur la liberté. C'est ce que montre aussi Emmanuel Kant, c'est ce que montre La Boétie dans son essai sur le contraint, sur la servitude volontaire. Il y a quelque chose comme un fait dans notre finitude même, dans notre précarité d'êtres humains, qui fait que nous acceptons d'abord la domination et que la liberté et l'égalité, qui nous paraissent secondes, sont d'abord des révoltes contre la domination. Doivent d'abord accepter ce fait étrange que la domination est peut-être comme la guerre une condition politique première contre laquelle la liberté et l'égalité doivent toujours se reconquérir.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être écoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Anthony Thomasson. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Corinne Amar, Luna Hajla et Nassim El-Kabli. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.